Gironde Mag, le magazine des Girondines et des Girondins, hiver 2021, numéro 132. Gironde, aliment, terre, TE2RE. Manger local, engagement, passion, bienveillance, quand deux Girondins font le choix de nourrir les autres, page 15. Sommaire, un territoire, aliment, terre. À votre écoute, Girondines et Girondins engagés, parole de citoyen, page 3. En bref, pouponnière pour les tout-petits, page 5. En bref, producteurs et agriculteurs soutenus, Gironde, aliments, terre, en chiffres, page 6. En bref, solution solidaire en 3, page 7. En bref, cybersécurité et télétravail, page 7. En bref, zones humides en vedette, page 7. En bref, crise sanitaire et maintenant, mobilisation partout pour toutes et tous, page 8. À votre service, Anne, l'amie des agriculteurs, elle accompagne la mutation agricole, page 10. Regard croisé, Mathurin, graine de jardinier, quand un adolescent réinvente un potager partagé, page 12. Regard croisé, Cagette.net tisse sa toile, un pari, la relocalisation de l'offre alimentaire, page 13. Regard croisé, beau comme un champi. Chitec et Pleurotte poussent du côté de Lugasson, page 14. Regard croisé, Damien et Damien pour l'amour du pain. Ils aiment leur terre, la vie associative et surtout le pain, page 15. Regard croisé, Nodris a trouvé ses agriculteurs. Fanny et Florian lancent leur ferme bio, page 16. Regard croisé, la calmie, un temps de répit, quand une asso accueille Alistair pour le repos de Sonia, page 17. En image, Gironde Oméga, 100 000 prises raccordées, quand la Gironde raccorde foyers et entreprises au haut débit, page 18. En vadrouille, Verdelet, la boucle du calvaire, balade autour d'une pièce maîtresse du patrimoine, page 20. À table, Élodie de la restauration rapide à l'élevage bio au paradis des poules en plein air, page 22. À la découverte de la maison des adolescents, lieu d'accueil de rencontres et d'écoute, page 24. À vos côtés, incandescence, la planète brûle, pratiquer un sport malgré ses maladies, page 28. À vos côtés, bouger pour vivre mieux, pratiquer un sport malgré ses maladies, page 29. À vos côtés, couleur café, santé solidaire, un rendez-vous pour créer un lien de confiance, page 30. À votre écoute, Girondines et Girondins résolument engagés. Résilients et résolument engagés, ces Girondines et Girondins ont fait le choix de bâtir leur existence autour de valeurs exemplaires. Dans le domaine du logement, de l'environnement, dans le champ social, en faveur des droits des femmes ou dans le domaine agricole, elles et ils ont des démarches qui méritent d'être racontées. Voilà des témoignages réconfortants et positifs en période d'épidémie et de contraintes persistantes. Ils donnent raison à celles et ceux qui estiment que le présent est la raison d'être du futur.
Notre façon d'agir a des conséquences durables. Delphine et Benoît Vinet, viticulteurs bio, La Pouillade. Le domaine Émile Grelier, à La Pouillade, est joliment baptisé le vignoble aux 50 nichoirs. Delphine et Benoît Vinet y élèvent du vin bio. Nous sommes partis d'une prairie et nous avons planté 8 hectares en 2002 afin de vivre au quotidien d'une agriculture respectueuse, durable et heureuse, s'enthousiasme Delphine. Pour rétablir et respecter les équilibres environnementaux autour de la production viticole, le couple mène des actions concrètes, efficaces et innovantes en faisant appel à des experts et des naturalistes. En témoignent les fameux nichoirs du site. Si Delphine, girondine, a fait des études de psychologie, Benoît, originaire de Charente-Maritime, vient du milieu de la vigne. Notre façon d'agir a des conséquences durables. Nous devons être économes et vigilants pour recréer de l'espoir, commande Benoît. Dans une société en crise, tous deux ont à cœur de transmettre ce comportement à leurs trois enfants, deux garçons, une fille, âgés de 19 à 22 ans. D'une même voix, ils estiment qu'il est de leur devoir d'être optimistes. Nous devons accélérer les changements de nos comportements, car le facteur temps est fondamental. Ce temps-là, ils l'ont mis à profit pour donner du sens à un quotidien où l'humain et la nature vivent en harmonie.
Nous aidons les personnes sans abri à changer de vie. Bénédicte Fernagut-Grangeret, bénévole de l'association Toi à moi, Bordeaux. Pour pouvoir s'en sortir, il faut avoir la tête reposée. Ces paroles, Bénédicte Fernagut-Grangeret les a entendues d'une personne accompagnée par Toi à moi. Et elle résume en peu de mots l'approche de cette association qui aide les sans-abri à revenir dans la vie. Toi à moi achète des appartements pour y loger des personnes sans-abri et finance un travailleur social qui les accompagne dans leur réinsertion en lien avec les bénévoles. Bénédicte a tout de suite adhéré à l'état d'esprit. « Je suis d'abord devenue marraine, » explique-t-elle, « ce qui signifie que je fais un don mensuel, à la mesure de mes moyens. Ces dons permettent de rembourser l'achat d'appartements où les bénéficiaires vivent le temps de se reconstruire. » L'association, créée à Nantes en 2007, a ouvert une antenne bordelaise fin 2019. « Je me suis alors engagée comme bénévole, » poursuit-elle. « Concrètement, je partage des activités avec Noria, une jeune femme d'origine syrienne qui était complètement perdue en arrivant ici. Pour les personnes en grande précarité, tisser des liens est essentiel, au même titre que reconstruire un projet de vie. Pour les y aider, Toi à moi fait appel à des travailleurs sociaux dont les interventions sont financées par du mécénat d'entreprise. En un an d'existence sur Bordeaux, l'association, épaulée par une douzaine de bénévoles et de nombreux donateurs, a acheté 4 appartements.
Nous devons avoir le moins d'impact possible sur notre environnement. Camille Wissel, éducatrice à l'environnement, Bègle. Camille Wissel est tombée toute petite dans la cause environnementale, ou plus exactement les études de cette jeune Alsacienne ont confirmé une inclinaison. Elle vient en Gironde pour obtenir à l'université un master de gestion et de développement des territoires, spécialisé en écologie humaine. Dans la foulée, elle rejoint en service civique le CREAC, C-R-E-A-Q, ou Centre Régional d'Éco-Énergie d'Aquitaine, à Bègle. J'ai travaillé sur la question de la précarité énergétique, mais j'ai aussi pu m'investir dans l'éducation à l'environnement auprès des enfants, raconte Camille. Le courant passe à la perfection et le CREAC décide de l'embaucher. Elle intervient désormais en tant qu'éducatrice à l'environnement dans les écoles et collèges, mais aussi en direction du grand public et des collectivités locales. Camille s'engage pour la résilience. Nous devons avoir le moins d'impact possible sur notre environnement. Les enfants sont d'excellents ambassadeurs sur le sujet pour leurs parents. Quant à sa confiance en l'avenir, son choix de s'adresser prioritairement aux jeunes parle de lui-même. Je me dois d'être optimiste et je me dis que les nouvelles générations ont une réelle conscience de leur environnement. À eux et à nous de faire que le futur dure et le plus longtemps possible.
Nous distribuons des repas et nous soutenons par notre écoute. Estelle Morisot, présidente de la Maraude du Cœur, Bordeaux. La Maraude du Cœur, c'est les 3/4 de ma vie et de mon appartement. Tous les dimanches soirs, l'association cofondée début 2018 par Estelle Morisot organise des distributions alimentaires destinés aux personnes précaires, le plus souvent sans abri. Nous proposons également des vêtements, des produits d'hygiène, des livres, et nous apportons un soutien psychologique. Quand on sent qu'une personne ne va pas bien, on repasse le lendemain. Depuis sa création, la Maraude du Cœur est en lien avec le SAMU social et le 115. Lors du premier confinement, ça a été la grosse panique pour les gens qui vivent dans la rue. Ils voyaient que tout était fermé, qu'il n'y avait personne dehors. Ils se sont sentis littéralement abandonnés. Estelle sait que pour être efficace, il faut s'adapter aux manières de vivre, instaurer la confiance. Dans ce milieu, comme dans tous les autres, il y a des codes. J'ai vécu 7 ans dans la rue. Il est particulièrement important pour moi d'utiliser ce parcours de vie. L'association fonctionne grâce à un bureau très actif et une grosse quarantaine de bénévoles qui sont aussi contactés en cas de besoin de lampes torches, de chaussettes, pour remplacer un sac cassé. Des produits de première nécessité pour qui n'a pas de domicile.
Je serai engagée jusqu'au bout car la tâche à accomplir est immense. Maryse Tourne, co-coordinatrice du collectif SIDA 33 Bordeaux. Co-fondatrice du CASSIS, centre d'accueil, de consultation et d'information sexuelle, co-coordinatrice du collectif SIDA 33, Maryse Tourne mène son combat militant depuis près de 50 ans avec la même puissance. Du combat contre le sida à la lutte pour défendre les droits des femmes, cette féministe au grand cœur n'entend pas rendre les armes. Citation : Il faut transmettre en faisant confiance aux jeunes générations. C'est une chance pour moi de coordonner les actions du collectif SIDA aux côtés de Joanne Plusalénée de l'ENIPS, équipe nationale d'intervention en prévention et santé. Ses idées et sa jeunesse sont porteuses de sens. Dans cet engagement, les acteurs de santé sont là aussi, comme les élus. Et je pense à l'action fondamentale du CEGIDD, C-E-G-I-D-D, Centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic, porté par le département, ainsi qu'au projet porté par BVSS Bordeaux Ville sans sida. Fin de citation. Pour les droits des femmes, Maryse Tourne ne capitule pas non plus. Je suis grand-mère et je pense à la génération de mes petites filles. Quel monde voulons-nous leur laisser ? Ce qui se passe en Pologne est très régressif. Il faut se serrer les coudes et que les hommes comme les femmes poursuivent le combat. Et quand cette femme d'exception évoque la résilience, c'est avec un optimisme têtu. La vie n'est pas linéaire, un long fleuve tranquille, il faut savoir réparer nos erreurs. Si je suis inquiète, je reste optimiste quand je mesure ce que fait le collectif SIDA 33. Je serai engagée jusqu'au bout car la tâche à accomplir est immense. En bref.
Aisine. Pouponnière pour les tout-petits. Depuis septembre dernier, le Centre départemental de l'enfance et de la famille d'Aisine, CDEF, accueille les très jeunes enfants dans des bâtiments fraîchement rénovés, conçus exprès pour répondre aux besoins spécifiques des 0-3 ans. Très souvent, les bébés arrivent sur place peu de temps après leur naissance, soit parce qu'ils sont nés sous le secret, soit parce que leurs parents n'étaient pas en mesure de s'occuper d'eux. Cet établissement est le seul à proposer un accueil d'urgence pour toute la Gironde, s'agissant des 0-3 ans. Cette pouponnière permet une prise en charge très particulière et individuelle, car la vie en collectivité n'est pas des plus faciles pour les tout-petits. 5 enfants sont pris en charge dans chacune des 9 unités de vie, entourés d'une équipe pluridisciplinaire, personnel de santé et éducatif. gironde.fr/protection-enfance.
Le département. 40 millions pour la Gironde. Après des mois de négociations avec l'État, le département a obtenu gain de cause. Parvenant à un accord, il a ainsi décroché 40 millions du plan de relance national. La Gironde est d'ailleurs le premier département à contractualiser avec l'État pour la relance économique et sociale. 14 millions permettront de soutenir la rénovation énergétique des logements et des bâtiments publics, en particulier des collèges. 10,2 millions visent l'amélioration du cadre de vie des personnes âgées. 9 millions conforteront les actions en faveur des mobilités douces et des transports collectifs. 5,4 millions accompagneront la transformation numérique et 1,2 million d'euros intéressent la cohésion territoriale, agricole et culturelle. gironde.fr/france-relance.
Le département. Producteurs et agriculteurs soutenus. En octobre dernier, en séance plénière et malgré les contraintes liées à la crise sanitaire, les élus du département ont confirmé leur soutien sans faille aux agriculteurs, producteurs et ostréiculteurs girondins. Ils ont ainsi voté plusieurs aides en faveur de Gironde Aliments Terre, voir page 10. Programme d'action dédié à l'alimentation, traduction concrète de sa stratégie globale de résilience. Les filières professionnelles agricoles ont ainsi reçu un appui de 500 000 euros pour accompagner l'installation et le développement des exploitations agricoles. La convention d'objectifs 2020-2021, signée avec la Chambre d'agriculture pour une agriculture 100% bio d'ici à 2030, a été dotée d'une enveloppe de 203 700 euros. La filière conchylicole, elle, a été soutenue à hauteur de 171 000 euros, profitant à 300 entreprises. L'élevage girondin, soit 2100 éleveurs concernés, a pu obtenir un concours départemental de 361 000 euros. Enfin, la viticulture a perçu une aide de 325 000 euros, venant conforter 77 viticulteurs dans leurs démarches liées à des pratiques bio ou raisonnées. Au total, 1,6 million d'euros vitalisent production et agriculture girondine. gironde.fr/agriculture. Ce nom. Solutions solidaires en trois. Pour la troisième année consécutive, le département et ses partenaires lancent une nouvelle édition de Solutions solidaires. Au Rocher de Palmer, à ce nom, les mardis 2 et mercredi 3 février, trois demi-journées de débats sont organisées et le contexte sanitaire ne fait qu'en révéler la pleine pertinence. Il s'agit bien, face aux urgences et aux mutations, d'inventer ensemble, au profit de toutes et tous, des solidarités nouvelles. Ce fil rouge de l'événement sera illustré par des récits d'innovation, de concepts, d'expérimentation et de solutions solidaires des territoires de Gironde, mais aussi d'ailleurs. Plus que jamais, il est donc urgent d'agir pour transformer ce qui doit l'être et mieux accompagner celles et ceux qui doivent vivre les mutations et non les subir. Rendez-vous est pris. solutions-solidaires.fr. Solutions solidaires au pluriel.
Bordeaux. Cybersécurité et télétravail. Le vendredi 29 janvier, dans le hall de l'immeuble Gironde et l'amphithéâtre Robert Badinter, cour du Maréchal Juin à Bordeaux, vous êtes conviés à la deuxième édition de la journée cybersécurité sur le thème du télétravail. Précisons que l'événement se déroulera également en visioconférence à laquelle vous pourrez vous connecter. L'usage d'Internet a augmenté de près de 30% pendant le premier confinement, 20% lors du second. Le télétravail y est pour beaucoup, avec, entre autres, l'augmentation du nombre de fichiers échangés et de nombreuses réunions en visioconférence. La sécurité informatique s'est imposée comme un enjeu majeur de l'essor du télétravail. Quelles menaces et quels risques? Quelles bonnes pratiques mettre en place? À l'occasion de cette rencontre, des élèves ingénieurs se livreront autour de scénarios informatiques à une cyberguerre et tenteront de remporter un des prix offerts par le département. La démonstration présentera les types d'attaques les plus courantes et comment s'en prémunir. gironde.fr/cybersécurité en un seul mot.
Médoc, zone humide en vedette. La journée mondiale des zones humides est célébrée chaque année le 2 février. Elle marque le rappel de la signature de la Convention de Ramsar pour la protection des zones humides en 1971. Cette convention est une première du genre dans le cadre de la préservation de l'environnement. Le MEDOC s'est associé depuis 10 ans à cette manifestation de dimension internationale afin de proposer un programme riche en sorties nature, expositions, mais aussi conférences, débats. Le collectif des partenaires locaux se réunit sous le nom des Arpenteurs. Ambassadeurs de la biodiversité médocaine, ils vous incitent à l'émerveillement devant les grands espaces naturels du Médoc, ces paysages tout en allant à la rencontre des acteurs qui les façonnent et les préservent. Depuis 2 ans, le parc naturel régional Médoc porte l'événement avec l'appui de l'association Éco-Acteur et le soutien financier du département pour nombre de sorties. Tous les rendez-vous gratuits sur le thème « Les zones humides et l'eau » se déroulent du vendredi 29 janvier au samedi 13 février. À ne pas manquer. www.pnr-medoc.fr jmzhmedoc@gmail.com.
En bref, spéciale crise sanitaire. Crise sanitaire et maintenant. Durant les mois qui viennent de s'écouler, marqués par un deuxième confinement et une sortie des restrictions sanitaires par étapes, le département est resté mobilisé. Il le reste aussi aujourd'hui, au moment où il est crucial d'accompagner les plus fragiles et de faire preuve de vigilance.
Adolescents, adolescentes et la Covid-19. Le département a répondu et répond aux questions que se posent encore les adolescents, adolescentes, sur le virus. Public visé par ce livret, collégiennes et collégiens, mais pas uniquement. Covid-19, qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la différence entre un virus et une bactérie? De l'apparition de la maladie à son suivi médical, en passant par les symptômes, mais aussi les gestes barrières. Tout y est pour répondre aux interrogations des jeunes. La publication n'évite pas les sujets les plus aigus, tests et futurs vaccins, avec la phobie des piqûres, mais aussi quelques autres. Pourquoi accuse-t-on les jeunes de propager la maladie? Peut-on embrasser son amoureuse ou amoureux sans danger? Peut-on aujourd'hui faire la fête sans limite? Bien sûr, le cas de la Covid dans le cadre des établissements scolaires est largement abordé. À lire et à faire circuler d'urgence et sans limite. gironde.fr/coronavirus #inversons la tendance.
Jeunes en difficulté, le kit. Les jeunes les plus en difficulté peuvent bénéficier du kit Covid-19 qui a été mis en œuvre par le département. Dans la rue, en rupture familiale, en situation de fragilité sociale, chacune et chacun peut disposer, grâce à ce kit, de quoi se protéger et protéger les autres. 4 masques réutilisables 50 fois, un flacon de 100 ml de gel hydroalcoolique et un savon de Marseille. Le document qui accompagne ces produits d'hygiène apporte une somme d'informations sur et autour de la Covid-19. Il rappelle, et ce n'est pas superflu, les modes d'utilisation du masque et la nécessité de le porter le plus possible. Le kit est intégré dans une pochette où se lit le slogan « Ne reste pas à l'écart ». 2000 exemplaires ont été mis à la disposition des associations mobilisées en faveur des jeunes pour une distribution massive. gironde.fr/coronavirus #inversons la tendance.
Budget de crise. La Covid-19 a eu d'inévitables conséquences sur le budget du département. Durant la période difficile et inédite qu'a traversée la Gironde, la collectivité départementale a dû engager des dépenses imprévues afin de répondre à la situation d'urgence. Cet engagement s'élève à 35 millions d'euros qu'il est important de détailler. 9,7 millions ont permis de conforter l'enveloppe dédiée au RSA, le nombre de ses allocataires augmentant au rythme de la crise. 8 millions ont été consacrés à l'achat de masques et de divers équipements de protection. 6,2 millions ont conforté les moyens des services d'aide à domicile. 1,5 million ceux de la protection de l'enfance. En outre, 2 millions sont venus soutenir les communes. 1 million d'aides exceptionnelles a été accordée à la vie associative, culturelle et sportive, mais aussi 1 million au BAC maritime. Dans le même temps, le département a dû faire face à une baisse aiguë de ses recettes liées aux transactions immobilières, appelées droits de mutation. La profession étant fortement impactée par la crise, ce sont 59 millions de chutes de recettes qui ont été enregistrées. Gironde.fr/budget.
Personnes âgées, éviter l'isolement. Les deux confinements ont mis en lumière l'isolement d'un certain nombre de personnes âgées. Pour lutter contre cet écueil, le département se sert d'un outil clé qu'il pilote, la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie, financée par la Caisse nationale de solidarité et d'autonomie, CNSA. Toutes les actions portées par les associations et les collectivités locales vont dans ce sens d'un évitement de la solitude. En 2020, 115 projets ont été lancés que l'épidémie n'aura pas stoppés. Citons, parmi les plus emblématiques, l'accorderie de Canet-Jean, favorisant les partages de services, l'association Vivre avec, où un senior accueille un étudiant à faible revenu en échange d'un temps de présence, le football club Médoc Côte d'Argent à Soulac-sur-Mer, avec la mise en place d'ateliers de prévention, ou encore le Renverse à Rions, qui fait se croiser les habitants pour tisser des liens. Gironde.fr/agenda-senior. Senior au pluriel. Non aux violences faites aux femmes. Depuis plusieurs mois, la crise sanitaire exacerbe l'isolement et l'exclusion des plus vulnérables. En Gironde, plus de 30% des interventions de police concernent les violences conjugales. Les victimes, en huis clos, sont restreintes au silence et éprouvent des difficultés à trouver de l'aide. À l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, le 25 novembre, le département a lancé un outil cartographique destiné à faciliter l'accès des victimes aux associations spécialisées les plus proches. Cet outil de recherche recense les associations de lutte contre les violences, les numéros d'urgence et toutes les informations utiles sur le sujet. Si vous êtes victime ou témoin de violences, de harcèlement, le département de la Gironde vous accompagne dans l'identification des bons contacts grâce à ce nouvel outil de recherche. N'hésitez pas, demandez de l'aide. Gironde.fr/violence. Violence au pluriel.
Jean-Luc Glaise, président du conseil départemental de la Gironde.
La Gironde a su montrer sa détermination et sa capacité à rebondir. 2020 laisse un souvenir aigu. Il nous a fallu faire face à une épidémie inconnue et ses conséquences. Restrictions sanitaires, confinement et crise économique et sociale sans précédent. Pour autant, la Gironde ne s'est enfermée ni dans le pessimisme, ni dans le renoncement. Au contraire, de nombreuses initiatives collectives et individuelles ont prouvé que la solidarité a du sens et que nous avons toutes et tous l'intention de changer de cap pour ne pas avoir à revivre une telle expérience. La Gironde a su montrer sa détermination et sa capacité à rebondir. En harmonie avec notre environnement, dans le soutien des plus fragiles, avec la volonté de bâtir un monde plus juste, nous nous relèverons. À toutes et tous, je souhaite, en dépit du contexte, une heureuse année 2021. Puisse-t-elle vous permettre de retrouver une bienveillante sérénité.
À votre service. Anne, l'amie des agricultrices et agriculteurs. Anne Hermann-Lorrain est conseillère en développement des circuits courts, en maraîchage et en installation auprès des producteurs girondins. Elle pilote aussi le programme Aliments Terre du département. Depuis 12 ans, elle accompagne avec passion la mutation agricole. 1099 exploitations certifiées en agriculture biologique, A, B ou en conversion. 27 519 hectares concernés, soit 11% de la surface agricole utile du département. 600 dossiers d'aide traités chaque année. 3 personnes au service des producteurs, Anne Hermann Lorrain, Alban Maucouvert, viticulture et pratique durable, Sophie Raoult, élevage asperges, au sein du service de l'agriculture, du foncier et du tourisme de la Direction des coopérations et du développement des territoires.
Quel a été votre parcours avant de rejoindre le département ?
Je suis née à Metz et j'ai toujours été passionnée par le monde rural. J'ai une formation d'ingénieur agricole et j'ai exercé au sein de nombreux organismes, des syndicats paysans à la Chambre d'agriculture, avant de rejoindre le département en 2008.
Quelle est votre mission ?
Mon rôle est d'accompagner les porteurs de projets, de l'instruction du dossier à son aboutissement, en passant par un montage qui implique des échanges directs avec les agricultrices et agriculteurs. Je les oriente aussi vers d'autres partenaires et financements. Nous pouvons ainsi mobiliser, par exemple, des aides européennes. Je vais sur le terrain pour les projets collectifs. Les dossiers individuels se traitent davantage au bureau.
Vous agissez en favorisant le bio et l'agriculture raisonnée.
C'est une volonté des élus du département et le virage n'a pas été trop compliqué à prendre en Gironde. Cette démarche répond à une mobilisation du terrain. Le maraîchage fait figure d'exemple puisque 70 à 75% des maraîchers produisent en bio. Les circuits courts qui se développent doivent beaucoup au maraîchage. Du côté de la viticulture, il faut procéder à une transformation en profondeur. 12 à 17% de la vigne sont cultivées en bio.
Dans votre métier, qu'est-ce qui vous intéresse le plus et qu'est-ce qui vous surprend encore ?
Ce qui me passionne, c'est le développement du maraîchage, car il y a encore une carence sur certains territoires où il y a pourtant un potentiel. Je pense aussi à ce qui se passe sur le domaine des nodrices, dans le Médoc, avec l'installation de producteurs. C'est un très beau challenge, voir page 16, NDLR. Je suis toujours surprise par l'originalité de certains projets. Je pense, sans vouloir le nommer, à ce maraîcher de Saint-André-de-Cubzac qui nous a présenté un dossier pointu, inspiré d'expériences menées au Québec. Nous l'avons soutenu avec inquiétude, mais ça a marché. La réussite m'enchante.
Pouvez-vous revenir en quelques mots sur le projet alimentaire que vous pilotez ?
C'est un projet primordial. Il vise à aider les Girondines et Girondins à mieux manger et manger local, mais aussi à permettre aux agriculteurs de mieux vivre de leur travail dans le respect de l'environnement. Il porte sur toute la chaîne de valeur, de la production à la consommation. Il a pour originalité d'être transversal en mobilisant plusieurs directions du département, les collèges avec la restauration scolaire, la solidarité pour aider les personnes en difficulté sur la question alimentaire, mais aussi l'enfance ou encore les personnes âgées. 4 axes fondent le projet, le foncier, l'agriculture bio, les circuits courts et le déploiement d'un approvisionnement de qualité. En 2021, les actions de terrain seront mises en place. Nous pouvons compter sur l'engagement des agriculteurs déjà très impliqués. Gironde.fr/consommons-girondins Gironde.fr/alimentaire
Regard croisé.
Mathurin, graine de jardinier. Âgé de 14 ans, Mathurin Piantanida veut créer un potager partagé à Moulis en Médoc. Son projet sera financé par le budget participatif lancé en 2020 par le département. Mathurin nous guide dans les rues de Mouly-Saint-Médoc. Il nous montre la mairie, l'école élémentaire, prévient que nous arrivons. C'est là. Là, il n'y a rien. Juste un terrain qui s'étire entre un grand bâtiment et des parcelles de vignes. Sur ces 800 mètres carrés inutilisés, il veut créer un jardin potager partagé. L'idée est venue pendant le confinement, explique-t-il. Avec ma famille, nous avons suivi un MOOC, M-O-O-C, cours en ligne, N-D-L-R, sur la permaculture de l'Université des Colibris. Le sujet les intéressait, la formation les a inspirés. Ici, à part la sortie de l'école, il n'y a pas beaucoup d'endroits où se retrouver, poursuit-il. Et les potagers, tout le monde aime. Mais je trouve dommage de faire ça seul dans son coin, alors qu'on pourrait partager nos observations, parler de nos erreurs, apprendre ensemble. Dans les starting blocks, l'association Les Herbes Folles a été fondée pour porter le projet. Propriétaire du terrain, la mairie a donné son accord afin de le concrétiser. Une vingtaine de familles du village sont dans les starting blocks, précise Mathurin, qui a déjà une vision pour le futur potager. Rassembler tous les âges et ne pas mettre trop de pression sur l'organisation. Pas d'hiérarchie, mais un fonctionnement par mission. Si quelqu'un souhaite s'occuper de la cabane, il le fera. Personnellement, je veux faire des spirales d'aromatiques. Ma sœur est passionnée par le maïs. Informé du budget participatif mis en place par le département pour permettre aux jeunes de 11 à 30 ans de réaliser leur projet d'investissement résilient, Mathurin a décidé de proposer sa candidature. Il a donc défini un budget pour couvrir l'ensemble des besoins, du râteau à la brouette en passant par le récupérateur d'eau. 7 041 €. Le 1er décembre, il apprenait que son projet était retenu en 15e position, avec 511 votes et 1860 points, parmi les 52 autres qui seront financés. Les idées n'ont pas fini de germer. Je participe. Gironde.fr. les-herbes-folles.wixit.com/jardin. Wixit, W-I-X-S-I-T-E. Jardin au pluriel.
Parole d'élus. Corinne Martinez et Sébastien Saint-Pasteur, co-responsables du budget participatif. En voulant donner la possibilité aux jeunes de proposer, créer, initier, nous n'avons pas été déçus, bien au contraire. C'est maintenant avec beaucoup d'impatience que nous attendons de voir ces projets participer à une Gironde plus solidaire et résiliente. Encore bravo aux lauréats. Cagette.net tisse sa toile. Plus qu'une simple plateforme de vente en ligne, Cagette s'est fixé pour mission de relocaliser l'offre alimentaire. Une idée partie de Bordeaux qui essaime dans la France entière. Oui, Cagette est une plateforme numérique. Et non, ce n'est pas une start-up, pas du tout. Nous sommes une SCOP, s'exclame Sébastien Zulk, cofondateur avec François Barbut de la société coopérative et participative Alilo. Concrètement, Cagette.net est un système de vente en ligne qui permet aux producteurs de diffuser leurs produits sans passer leur temps à gérer les commandes, les appels téléphoniques, les SMS et autres tableaux de chiffres. Les clients commandent simplement sur le site, puis ils viennent retirer leurs achats dans un point de livraison prédéfini. Particularité, il n'y a pas d'abonnement, ni de commission. Sinon, ce ne serait pas de la vente directe, précise François. Les producteurs sont donc rémunérés correctement et les consommateurs paient le vrai prix. Formation aussi. Mais Cagette n'est pas seulement cet outil bien pratique pour rapprocher producteurs et consommateurs. C'est aussi le volet numérique d'un projet beaucoup plus vaste, porté par la SCOP Alilo, un organisme de formation. L'objectif est que chaque producteur puisse organiser ses propres points de distribution auprès de sa clientèle et rejoindre, s'il le souhaite, les initiatives citoyennes qui émergent sur son territoire. Étant donné que vendre en ligne n'est pas inné, nous les formons pour qu'ils soient complètement autonomes et efficaces. Le réseau Caget rassemble à ce jour 115 000 clients réguliers et 2 000 producteurs membres. Des chiffres qui ont bondi avec la crise sanitaire. Du jour au lendemain, tout a basculé, les marchés étaient fermés, il fallait réagir vite, se souvient Sébastien. Nous avons mis en place un kit d'urgence permettant aux producteurs de commencer à vendre dès l'ouverture de leur compte, grâce à des tutoriels et des visioconférences, poursuit François. Une vision humaine du numérique. www.caget.net gironde.fr/consommons-girondin.
Beau comme un champi. Émilien et Yanis ont bâti leur projet dans une ancienne carrière de Lugasson. Chitake, S-H-I-I-T-A-K-E et pleurote, y poussent avant de rejoindre le grand soleil des marchés. Pari gagnant pour ses amis engagés dans l'humanitaire. Émilien, sourire éclatant, issu du monde paysan girondin, et Yanis, tout en barbe, impliqué dans la transition écologique en Gironde, ont chacun 32 ans. Les deux garçons se sont connus au gré de leur engagement humanitaire en Afrique. Et pourtant, le premier a une idée en tête. Investir une ancienne carrière d'extraction de pierre à Lugasson, en Entre-deux-Mers, pour y installer une champignonnière. Le second se laisse convaincre. En 2019, il lance le groupement d'exploitation agricole en commun, ou GAEC, G-A-E-C, les champis de l'Entre-deux-Mers, avec un A en première lettre. Nous avons 30 kilomètres de galeries creusées à la main en 1870. Jusqu'en 1930, on y a extrait des pierres pour la construction. Puis des champignons de Paris y ont été cultivés avec jusqu'à 500 personnes employées. En 1993, c'était fini, raconte Émilien. Yanis ajoute « Pour s'installer, il faut une activité qui répond à des valeurs. Pas question de revenir aux champignons de Paris. Les deux hommes cultivent des chitakes ou lantins du chêne et des pleurotes en culture biologique dans un espace où, sous les voûtes de la carrière, vivent trois espèces de chauves-souris protégées. De septembre à mars, 2 tonnes de chitakes et 2 de pleurotes sont produites avant d'être vendues sur place ou sur les marchés de Gornac et Targon, entre autres, à condition de ne pas dépasser 30 km autour du site, précise Émilien. Le département leur a accordé une aide de 13 600 euros au titre de l'investissement. Partager sa passion. Des valeurs, les deux garçons en ont, eux qui poursuivent durant les 6 mois où leur exploitation est en repos, leur engagement humanitaire en Afrique. À Lugasson, ils ont choisi de vivre dans des habitats légers et sont à l'origine de l'association Les Colocataires, Coloca, plus loin terre, pour dynamiser le tissu local. Le GAEC propose aussi à la vente les produits des voisins et des amis. Le miel de Sophie de Saint-Martial, le vin nature de l'île rouge de Lugasson et bientôt la bière du cabestan de Sainte-Croix-du-Mont, présente Yanis, enthousiaste. Ici où prochainement pourront aussi être cultivées des endives, il n'exclut pas de monter un marché de producteurs pour faire des soirées d'été, un lieu d'échange et de partage d'une passion sans limite. Pour en savoir plus, les champis de l'Entre-deux-Mers, Charon Nord, 33 760, Lugasson. Adresse internet www.facebook.com/page au pluriel/catégorie/farmer/market/les-champis-champis-2-lentre ANTRE-2-MER. Adresse mail CA chiffre 2 M gmx.fr, téléphone 07 67 50 54 45. Adresse internet gironde.fr/consomongirondin en un seul mot.
Damien et Damien, pour l'amour du pain. L'un est enseignant, l'autre responsable d'une radio locale. S'ils ont un prénom en commun, ces deux Damiens-là ont bien plus à partager. La passion de leur terre, du sud Gironde, un goût certain pour la vie associative, mais aussi un amour du pain, le vrai. Damien Tauzin a 46 ans, natif de Castet en Dort, cet enseignant en lycée agricole vit avec sa compagne et ses enfants à Bari. Damien Palaruello, lui, a 39 ans et a vu le jour à Sainte-Foy-la-Longue. Il est responsable d'antenne de radio entre deux mers et, avec les siens, habite non loin de son ami. Ils participent à la création, il y a 6 ans, de l'association Les Bariolais, dynamisant la commune. Dès l'ouverture, nous avons compté 40 membres actifs, explique Damien T., alors que Bari se repeuplait. Nous avons eu à cœur de maintenir ses racines, et le thème de l'agriculture a occupé nos débats. Durant les soirées, on parle aussi de ruches et du pain. Damien P. ajoute « De mon côté, j'ai rencontré l'ami d'amis qui avait fait le tour des Amériques, et elle m'a transmis son amour du pain. Elle m'a redonné le goût du vrai pain et m'a passé un bout de son levain. » Il n'en faut pas plus pour que les Damiens suivent un stage de panification, puis fassent leur premier pain pour leur famille. Ils vont plus loin et lancent le projet du fournil des dames. Un appel au financement participatif dépasse leurs attentes. Plus de 280 donateurs répondent présents. Sur une parcelle proche de la maison de Damien T., ils remontent un bâtiment et y installent un four à bois. Pour cette installation, l'an passé, ils ont perçu une aide du département de 30 000 euros. Succès et éthique. Nous avons semé du blé avec des variétés anciennes en octobre 2019 et nous l'avons récolté en juillet dernier. Nous le moulons nous-mêmes, nous le trions et le transformons en farine. Nous proposons 2 fournées seulement par semaine, le mercredi et le vendredi. À chaque fois, 100 kilos de pâtes nous permettent de proposer 60 pains ronds d'1 kilo et 20 à 25 pains moulés de 800 grammes. Détail Damien T. Et pas plus, car c'est une question d'éthique, comme le fait de ne pas distribuer à plus de 25 kilomètres du fournil. La denrée rare le restera, d'autant qu'en parallèle, les deux Damiens continuent à travailler, chacun de leur côté. Avoir un vrai goût de pain en bouche, c'est très plaisant et indescriptible, s'enchante Damien P. Alors, tentez ? Pour en savoir plus, le fournil des dames, 1 Métairie de Lille, 33190 Bari. facebook.com/page/catégorie/entrepreneur/fournil-des-dames. Dame, D-A-M-S. Fournil des dames, @gmail.com. 06 87 49 46 92. gironde.fr/consomongirondin en un seul mot.
Le domaine de Nodris a trouvé ses agriculteurs. Nodris, à Verteuil, accueille déjà le célèbre reggae Sanska sur ses 40 hectares de terres agricoles et forestières. 2021 verra la naissance de la première ferme biologique du département. Rencontre avec Fanny Le Dauphin et Florian Serreuil, 2 des producteurs retenus pour s'y installer. En plein cœur du Médoc, le département développe sa première ferme agriculturelle, un des axes de la stratégie de résilience pour une nourriture saine, locale, respectueuse de l'environnement et des agriculteurs. C'est une opportunité qui répond aux besoins en terre que nous avions et nous cherchions depuis près d'un an, expliquent Florian et Fanny, futurs producteurs à Nodris. Heureux d'un projet associant activité agricole et vie de famille, ils y voient leur pays de Cocagne. Nous nous entraiderons tout en ayant chacun notre domaine de prédilection. En reconversion professionnelle, elle était professeure des écoles, lui, cuisinier. Ils ont bâti un double projet. Florian s'adonnera à du maraîchage diversifié, tandis que Fanny se consacrera à un élevage caprin avec transformation fromagère, le tout sur une surface de 4 hectares et un bail de 9 ans en agriculture biologique. Le choix du collectif. S'installer à Nodris, c'est aussi faire le choix du collectif. Florian travaillera non loin d'Olivier avec son atelier de poules pondeuses et de poulets gascons. De cette ferme expérimentale devraient naître des coopérations fructueuses. Le fumier de chèvre et la fiente de poule issus de l'atelier de poules pondeuses serviront d'intrants naturels. D'ici un an, nous envisageons également d'adjoindre un petit élevage porcin qui s'engraissera avec le lactosérum des chèvres et fertilisera la terre. Symbole de production exemplaire d'un point de vue environnemental et social, la ferme de Nodry sera également un lieu de rencontre grâce à la création d'un point de vente et d'une conserverie. Les surplus et les légumes non vendables seront transformés et consommés tout au long de l'année. La mise en place d'ateliers pédagogiques avec accueil à la chèvrerie et tables paysannes devrait apporter une dynamique sociale à la ferme, mais également un élément fort de sensibilisation au bien manger. En plus du magasin, nos fromages, dont du fromage blanc, nos légumes bio et de qualité seront proposés aux AMAP, marchés de producteurs, et au collège Médocain. Un projet ambitieux qui prend forme, une expérimentation à ciel ouvert et une belle reconversion pour un lieu qui écrit une nouvelle page de son histoire. gironde.fr/nodris.
Parole d'élu. Bernard Castagnier, vice-président chargé de l'attractivité territoriale, de l'initiative locale et du tourisme. Le projet de Nodris répond véritablement aux ambitions du département de donner à toutes et tous, citoyens comme agriculteurs, les moyens de vivre différemment, en choisissant de consommer et travailler dans le plus grand respect de l'environnement. Le Médoc aura valeur d'exemple.
La calmie, un temps de répit. Comme Sonia, maman d'Alistair, 11 ans, autiste non-verbal, elles sont 324 000 personnes aidantes en Gironde. Le département accompagne les initiatives concourant à leur nécessaire droit au répit. Depuis cet été, le collectif handicap expérimente hors domicile la calmie, une solution de répit pour les aidants d'enfants et jeunes adultes en situation de handicap de 3 à 20 ans. Tout comme 37 familles, Sonia en a bénéficié. D'abord, Alistair y a passé une dizaine de matinées. Je ne connais aucun moment de répit. Cette proposition, c'est du rêve pour tout aidant. J'avais été rassurée par la réunion d'information et le ratio un adulte, un enfant, avec la présence systématique d'un membre de l'association. Cet accueil s'effectue par groupe de 5 enfants et jeunes, encadrés par 4 auxiliaires de vie du service d'aide à domicile Amélis, dans les structures prêtées gracieusement. C'est un temps pour se reposer et pour travailler. Quand il est là-bas, il est avec des professionnels et je leur fais confiance. Il me manque, mais c'est un véritable répit, car s'occuper d'Alistair, c'est avoir un nouveau-né depuis 11 ans, une vigilance permanente. Je me suis promenée avec mon aînée Julie à Bordeaux. Bientôt peut-être irons-nous au cinéma. Lâchez prise. Proposé les samedis et 3 jours en semaine durant les vacances scolaires, l'accueil est gratuit. Il est axé sur les activités de loisirs et les centres d'intérêt des enfants. C'est également du répit pour Alistair. À l'école, il travaille beaucoup. Son auxiliaire de vie scolaire, AVS, le sollicite en permanence et ce temps passé à l'extérieur du domicile permet de lâcher prise. Depuis l'automne, il s'y rend un samedi tous les 15 jours et l'association maintient son dispositif en période de confinement. Le collectif Handicap est soutenu pour cette action à hauteur de 25 000 euros par le département, par la CAF et nombre de partenaires privés. L'association recherche désormais de nouveaux lieux d'accueil pour se déployer sur l'ensemble du territoire girondin en s'appuyant sur des actions existantes. Adresse mail collectif@handicap@yahoo.com. Adresse internet gironde.fr/autonomie.
Parole d'élu. Edith Moncoucu, vice-présidente chargée de l'autonomie, handicap et politique de l'âge. Notre feuille de route départementale de l'aide aux aidants témoigne de notre volonté d'être aux côtés de celles et ceux qui font ce choix. Cette décision doit se vivre sans risquer de sombrer dans le renoncement et l'épuisement. Elle doit, au contraire, apporter de la sérénité et renforcer les liens avec la personne aidée.
En images, Gironde Oméga, 100 000 prises raccordées, 6 000 km de fibres déjà implantées, 466 000 habitations et entreprises raccordées d'ici 2024, 7 à 8 000 prises construites par mois, 500 emplois et 178 000 heures d'insertion, 1425 chantiers en Gironde, 740 millions d'euros de budget, dont 115 millions d'investissements publics. Gironde Oméga en un seul mot.fr. En vadrouille, Verdelay, la boucle du calvaire. Verdelay est l'un des plus anciens sanctuaires d'Europe dédiés à la Vierge et l'un des grands centres de pèlerinage de la Nouvelle-Aquitaine. Au-delà, le promeneur pourra profiter d'une belle randonnée hivernale pour découvrir l'une des pièces maîtresses du patrimoine girondin. 1. La basilique Notre-Dame de Verdelay. Vous commencerez votre balade à la basilique Notre-Dame de Verdelay, classée monument historique. L'imposant clocher est couronné par une statue de la Vierge de 3,75 m de haut. Au sommet du clocher, un petit édicule en forme de tempietto, sorte de petit temple, supporte la dite statue. À la base, quatre autres statues sont disposées aux quatre points cardinaux. À l'intérieur de la basilique, tableaux, statuaires, boiseries, frises et vitraux vous plongeront dans un autre temps. 2. Le couvent des Célestins. À proximité, vous trouverez le couvent des Célestins qui se répartit sur deux cloîtres. L'un, reconstruit au XIXe siècle, accueille le presbytère. L'autre est le bâtiment d'origine construit par les Célestins. Il abrite aujourd'hui la mairie, l'école et le musée d'art sacré. Une belle étape pour le randonneur passionné d'histoire. 3. Le chemin de croix. Avant de gravir le chemin de croix et de découvrir les 16 chapelles qui le composent, vous passerez par la tombe de Toulouse-Lautrec, fantasque et prolifique peintre du XIXe siècle. Le chemin a été classé au titre des monuments historiques en 2010. Les chapelles qui parsèment l'itinéraire sont conçues comme des lieux de prière. Dans chacune des chapelles qui parsèment l'itinéraire se trouve un autel, surmonté d'un haut-relief en grès céramique de remarquable qualité, représentant un épisode de la Passion du Christ. Au bout du chemin, vous découvrirez un magnifique panorama. 4. Le calvaire de Verdelay. Vous rejoindrez ensuite le monumental calvaire de Verdelay, établi sur les pentes du mont Cussol. Au sommet de la colline, vous aurez une vue dégagée et imprenable sur la vallée de la Garonne. À cet emplacement, le calvaire fait face au sud-est, présentant les trois croix, l'une portant le Christ, les autres les deux larrons. Au pied des marches qui mènent au calvaire se trouvent des anges qui semblent monter la garde. À quelques pas du calvaire de Verdelay s'élève un beau moulin à vent restauré, perché au sommet du mont Cussol. Un beau rappel qu'il n'y a pas si longtemps, on cultivait les céréales en entre-deux-mers. Aujourd'hui, les terres à blé ont été conquises par la vigne. 5. Saint-Mexant. Prenez le temps de visiter sur le sommet d'un coteau le domaine de Malagar à Saint-Mexant, où a séjourné régulièrement le célèbre écrivain François Mauriac. La commune est occupée dès l'Antiquité, comme le suggèrent les vestiges probables d'une villa gallo-romaine sous et aux abords de l'église paroissiale de Saint-Mexant. La balade se poursuit entre rangs de vignes et champs de maïs jusqu'au bord de Garonne. Une promenade très nature dans un milieu où la faune et la flore sont préservées. 6. Le pas de la mule. Vous terminerez la balade au pas de la mule où vous accueille une statue de Notre-Dame de Verdelais, ainsi qu'un groupe commémoratif de 6 statues placées directement sous la falaise. Un ruisseau est alimenté par une petite cascade où les randonneurs pourront profiter de la quiétude des lieux. La boucle du calvaire offre aux promeneurs un itinéraire de 9,7 km qui présente une difficulté modérée de parcours. Précisons que le département partenaire fidèle du site touristique a apporté cette année une enveloppe de 15 104 € destinée à la restauration de la façade nord de la chapelle Sainte-Agonie et à l'accès du calvaire. Adresse internet tourisme-sud-gironde.com gironde.fr/agenda. À table!
Élodie, de la Resto Rapide à l'élevage bio. Des œufs bio, extra frais et pondus par des poules élevées en plein air, des fraises, des framboises ou des plants de légumes. C'est ce que propose depuis 5 ans Élodie Molina dans sa bioferme de Saint-Aubin-de-Médoc, après avoir décidé avec sa famille d'un changement de vie radical. Tout plaqué pour se construire une nouvelle vie, davantage en accord avec ses valeurs. Les Français seraient de plus en plus nombreux à y penser. Élodie Molina, elle, a franchi le pas depuis 5 ans déjà. En 2015, cette Saint-Aubinoise, âgée alors de 35 ans, en couple et mère de 2 enfants, s'est réinstallée dans sa ville natale pour y mener un projet de bioferme, inspiré des cycles naturels et respectueuse de l'environnement. Elle peut compter sur ses parents dévoués qui lui offrent son premier lopin de terre sur lequel l'aventure peut commencer. Au milieu des bois, elle cultive en bio quelques fruits, légumes, plantes comestibles et, surtout, élève 250 poules pondeuses et d'écailles, une poule rousse classique et une poule noire plus ancienne et rustique, la marance, dont les œufs roux séduisent le consommateur. Elle achète les poules à leur naissance, les élève en plein air, dans de grands enclos boisés, les nourrit de céréales bio. Les œufs sont vendus extra frais, 3 jours maximum après leur ponte, et exclusivement en circuit court et local, au marché de Saint-Aubin, directement à la ferme le samedi matin, via 3 AMAP, mais aussi grâce au site La Cagette, plateforme en ligne gratuite qui met directement en relation producteurs et groupes de consommateurs et dont le département a soutenu le développement. Voir page 13, NDLR. Projet de vie de famille. Rien ne prédisposait pourtant Élodie au métier d'éleveuse. Elle n'est pas issue de ce milieu et, plus jeune, n'avait jamais envisagé cette voie. Sa carrière, c'est dans une chaîne de restauration rapide qu'elle l'a effectuée auparavant. Mais, explique-t-elle, cela ne collait plus du tout avec mes envies. La naissance de ses enfants a été un déclencheur. Nous avons commencé à être plus attentifs à ce que nous mangions, à acheter bio et local, raconte l'exploitante. Puis, petit à petit, nous avons voulu aussi être participants et montrer à nos enfants comment nous pouvions agir pour respecter la nature. L'idée de la bioferme se construit alors comme un véritable projet de vie de famille. Pour y arriver, Élodie suit en amont les formations et travaille 1 an dans une exploitation à Arsac. La Chambre d'agriculture et le Conseil départemental soutiennent son installation. La famille déménage. 5 ans plus tard, elle n'a aucun regret et poursuit son développement. L'objectif est désormais de doubler la production pour permettre au couple de vivre à 2 sur l'exploitation et faire ainsi aboutir complètement leur projet de vie. La bioferme de Saint-Aubin, 41 route de Mautan, 33 160 Saint-Aubin-de-Médoc, 06 62 34 60 97. facebook.com/agroécologieurbaine app.cagette.net/groupe/8684 groupe sans e gironde.fr/consommons-girondins.
La recette: mousse au chocolat onctueuse. Cassez 250 g de chocolat en morceaux et faites-le fondre au bain-marie avec 10 cl de crème fraîche liquide. Hors du feu, ajoutez les graines d'une gousse de vanille. Mélangez et laissez tiédir. Incorporez ensuite 3 jaunes d'œufs extra frais en fouettant, puis laissez refroidir complètement. Pendant ce temps, montez 6 blancs en neige ferme avec une pincée de sel. À mi-parcours, versez 40 g de sucre. Incorporez le tout délicatement en soulevant la préparation à la crème au chocolat. Mettez au frais une heure, puis répartissez la mousse dans 6 coupes à l'aide d'une poche à douille. Remettez au frais encore une heure minimum avant de servir. À la découverte de la Maison des Adolescents. À Bordeaux, dans ses antennes en Gironde, la Maison des Adolescents est ouverte aux jeunes en quête d'un conseil, d'une écoute. Le dessinateur François Hérol a poussé la porte de ce lieu si accueillant. Adresse internet mda33.fr. Près de la cathédrale de Bordeaux, aux 5 rues Dufour-Dubergier, se trouve la Maison des Adolescents, tout près du tram. Créée en 2013, principalement financée par le département et l'ARS, elle dispose de plusieurs antennes. L'Espar-Médoc, Pauliac, Bordeaux, Biganos, la Teste de Buch, Langon, la Réole. D'une simple demande d'information à l'expression d'une petite ou grande difficulté, elle accueille les jeunes de 11 à 25 ans, ainsi que leur entourage. L'équipe est composée d'une dizaine de professionnels, psychologues, psychiatres, infirmières, travailleurs sociaux, etc. « Bonjour, » dit une personne de la Maison des Adolescents. Le climat se veut accueillant et peu protocolaire dans un salon des plus confortables. Les préoccupations sont de tous ordres, mais les principales concernent des questions psychiques, familiales et scolaires. Une jeune fille se plaint en faisant ses devoirs « Mes parents sont tout le temps sur mon dos » lorsqu'elle regarde du coin de l'œil sa mère pénétrer dans sa chambre. « Hé, t'as plein de boutons !» dit un adolescent à un autre qui pense « il n'arrête pas de me harceler ». Une jeune fille demande à son amie « toi aussi tu as subi quelque chose dont tu n'oses pas parler ?»« Ça ferait des problèmes », répond l'autre. Deux adolescents affalés, buvant bière et fumant moult cigarettes. « Avec mes parents, on ne se parle jamais ». Une professionnelle de la MDA nous explique « les jeunes se présentent spontanément ou alors sur les conseils d'une connaissance ». L'infirmière scolaire. « Tu es souvent triste. Tu es sûre que ça va ?» demande-t-elle à une étudiante. « Les parents. Tu es tout le temps sur ta console. Sors de ta coquille. » Ou les amis. « Il faut que tu en parles, » dit un garçon à son ami. « Je t'emmène à la MDA. » Si un jeune vient avec un parent, ils sont reçus séparément. « Mes parents m'étouffent, » dit une jeune fille à son interlocutrice. « J'ai tellement peur qu'elle fasse de mauvaises rencontres, » dit la maman. La compréhension du jeune se fait à travers l'ensemble des relations familiales et sociales, dit la professionnelle de la MDA. Au bout de plusieurs rencontres, la parole se libère souvent. « J'ai fait plusieurs tentatives de suicide. » Les professionnels proposent un appui, après en avoir parlé en équipe, pour trouver la meilleure façon d'accompagner le jeune. La MDA reste un lieu transitoire. « Alors tu vois, c'était pas trop la honte d'y aller, » dit un jeune homme à son camarade. « Oui, ça fait du bien de parler. » Nous recevons plus de 800 jeunes chaque année. Et il est possible de nous contacter sur Internet et les réseaux sociaux. À bientôt. Tribune libre.
Groupe socialiste et apparenté. À notre collègue et ami, Emmanuel Ajon. Parcours d'une femme engagée et d'une élue de terrain. Emmanuel nous a quittés le 14 décembre 2020. Sa pugnacité, ses compétences, sa bienveillance et son dynamisme manqueront à la Gironde. 30 ans d'engagement personnel, professionnel et politique au service des autres. Dès les années 90, Emmanuel milite pour une justice sociale au sein du Secours populaire et de l'ADIL, Agence départementale d'information sur le logement. Dans le même temps, elle embrasse une carrière professionnelle dans le logement social. Engagée en politique depuis 2002, Emmanuel mena plusieurs combats. Tout d'abord, au sein du Conseil régional de 2011 à 2015 comme déléguée à l'insertion. Puis à nos côtés, au sein du Conseil départemental de la Gironde, en tant que vice-présidente, Emmanuel portera la lourde responsabilité de la protection de l'enfance. Une mission qu'elle aura pleinement assumée. En témoigne une rapide reconnaissance nationale pour son travail et son action dans l'intérêt des enfants. En juin 2020, Emmanuel avait pleinement participé à l'Alliance victorieuse à Bordeaux. Elle fut naturellement investie adjointe au maire pour porter un service public du logement. Emmanuel s'est maintenant fondu dans le soleil. Il nous reste son sourire et ses actions à perpétuer. Facebook, groupe socialiste et apparenté, département de la Gironde. Twitter, @CD33PS.
Groupe écologiste Génération S, EELV, une année résiliente pour le climat et les solidarités. L'année 2020, avec la pandémie du Covid-19, a montré l'imbrication de différentes crises écologiques, sanitaires, économiques, sociales. Face à ces crises, la stratégie de résilience choisie par le département vise à renforcer notre capacité à anticiper et s'adapter. Le département a réuni un panel citoyen sur la résilience. Dans son avis final, le panel souhaite une Gironde 100% bio et l'arrêt immédiat des pesticides. Nous avons contribué à la révision du plan zéro herbicide du département qui conditionne désormais l'attribution des aides aux viticulteurs à l'arrêt des CMR et SDHI. Mais le soutien au bio peut encore aller plus loin. Nous saluons la volonté du panel que chaque décision économique et sociale du département soit prise en fonction du réchauffement climatique, ce que nous souhaitons depuis longtemps à travers un budget climat afin que la neutralité carbone ne soit pas qu'un horizon lointain. Groupe écologiste Génération S, EELV, adresse internet élu-gironde.eelv.fr, facebook.com/eelvcdgironde, @ELUSEELV, trait de soulignement CD33.
Gironde Avenir, groupe d'opposition de la droite et du centre. Agnès Versepuis, conseillère départementale du canton de Saint-Médard-en-Jalles.
Fin juin, vous avez été réélue maire du Taillan-Médoc. Que vous apporte ce mandat en tant que conseillère départementale?
Ces deux mandats ont une réelle complémentarité. Être une élue de terrain, proche des habitants et de leurs préoccupations, ancrée sur une commune de la métropole, me permet de coller aux réalités locales et aux enjeux importants pour notre territoire comme les mobilités.
Que retenez-vous de l'action du groupe Gironde Avenir au Conseil départemental?
Depuis 2015, notre groupe, présidé par Jacques Breillat, se montre force de proposition. La mise en place de visioconférences pour les réunions de commissions thématiques, la dématérialisation des cartes de vœux, autant d'avancées obtenues à l'initiative de notre groupe, qui ont permis à notre assemblée d'être rodée dès le début de la crise sanitaire. Nous avons défendu la valeur travail au travers d'une motion adoptée sur l'expérimentation, reconduite cette année, du cumul des revenus du RSA avec ceux d'un travail saisonnier. Contrôler, critiquer, proposer, nous continuons d'incarner une opposition responsable et nous agirons jusqu'au terme de la mandature au service des Girondins et des Girondines.
Quels vœux formulez-vous pour le département et ses habitants en cette nouvelle année ?
J'espère que la Gironde va poursuivre son développement dans le respect de la nature et de la qualité de vie des habitants, avec une attention aux plus fragiles d'entre nous, et je souhaite aux Girondins de vivre dans une société plus juste et plus humaine. Gironde Avenir, groupe d'opposition de la droite et du centre. www.gironde-avenir.fr 05 56 99 55 87 35 40. Retrouvez notre actualité sur Twitter et Facebook.
Rassemblement national. Grégoire de Fournasse. 07 82 32 50 94. Retrouvez-moi sur Facebook. Après relecture attentive de la proposition du groupe Rassemblement national, nous avons considéré que le contenu de la tribune était de nature à engager la responsabilité éditoriale du département de la Gironde. La direction de la publication.
Le mouvement de la ruralité. Il est urgent d'attendre. Face à la Covid, les nouveaux vaccins proposés ARN et adénovirus n'ont jamais été expérimentés auparavant sur l'homme. Fabriqués certainement trop vite, sans en connaître les risques, pouvant entraîner une forme de maladie grave et des effets secondaires, ils font naître, dans la tête des Français, un sérieux doute quant à leur efficacité. La gestion calamiteuse de la crise sanitaire par l'exécutif ainsi qu'une pression psychologique liée à une campagne de vaccination ont tué la confiance et instauré une défiance à l'égard de ce vaccin. Prendre le risque d'être un cobaye ou non, telle est la question, sachant toutefois qu'il est recommandé de recourir aux autres vaccins en vigueur. Sonia Colemain, Le mouvement de la ruralité, 05 59 14 71 71.
À vos côtés. Culture. Incandescence, la planète brûle. Qui ?
Son nom ne laisse aucun doute. Baptisée Incandescence, la planète brûle, l'exposition proposée par l'Amicale laïque de la glacière, ALG, à Mérignac, veut éveiller les consciences. Il s'agit d'évoquer l'urgence climatique en présentant aux habitants du quartier et de toute la métropole des œuvres de grande qualité qui interrogent notre monde. Détaille le peintre, graveur et sculpteur Benoît Appiot, également directeur artistique de cet événement.
Quoi ?
Dans la salle municipale de la Glacière, contiguë aux locaux de l'Amicale, les œuvres de 12 artistes plasticiens néo-aquitains seront exposées du 27 février au 7 mars 2021. Aquarelles, peinture à l'huile et acrylique, sculpture, land art, art textile, gravure ou encore art urbain, les propositions seront éclectiques, mais le travail de chacun a en commun d'entrer en résonance avec la situation écologique et d'intégrer la notion de recyclage, précise Benoît Appiot. L'exposition se tiendra en fonction de l'évolution de la situation sanitaire.
Comment ?
Soucieux de démocratiser l'art, les organisateurs de cette exposition attachent une grande importance à sa dimension participative. 8 jeunes inscrits à la mission locale travailleront ainsi 5 jours en amont de l'ouverture de l'exposition sur un chantier dont l'objet est l'aide au montage de l'expo et l'installation des œuvres. Enfin, l'éducation populaire aura toute sa place durant cette semaine de démonstration artistique. Table ronde avec l'Agence de la biodiversité et échanges sur les pratiques artistiques propres sont de fait également au programme.
Amicale laïque de la Glacière, 56 rue Armand Guéral, 33700 Mérignac. Téléphone 05 56 96 62 65. Adresse mail alg-mérignac@wanadoo.fr. Adresse internet www.algmérignac.fr. Sport et loisirs, bouger pour vivre mieux. Qui ?
Depuis 2015, l'association Maladies chroniques, Sport et Bien-être, AMCSB, propose une activité physique aux personnes souffrant d'une pathologie durable, diabète, problèmes cardiaques, obésité, hypertension, douleurs lombaires, cancer, etc., dans le respect du rythme du participant, dans la bienveillance, l'écoute et l'empathie. Malade, j'étais dans l'incapacité de suivre un cours de pilates tout public, raconte Laurence Colombelle, sa présidente. Un paradoxe quand on pense qu'il nous est recommandé de faire du sport, mais que l'on ne peut suivre un cours classique.
Quoi ?
Cette année sont au programme des cours de pilates, de qigong, de marche nordique, afghane et de relaxation. Par petits groupes de 7 personnes, minimum 2 fois par semaine, les adhérents pratiquent une activité physique, mais tout en douceur, dispensée par des animateurs diplômés et spécialisés. Lors de l'inscription, le participant s'entretient avec une des monitrices et un parcours personnalisé est établi, en fonction de ses attentes et de ses besoins. 24 séances plus tard, un nouveau bilan permet de mesurer les progrès réalisés.
En plus,
dans un climat de confiance, loin de toute compétition et de tout jugement, l'association permet de trouver ou de retrouver du plaisir et du sens à la pratique sportive, tout en améliorant sa santé. Même si l'on est faible, douloureux, on se retrouve, on échange, on sourit, c'est un bon moment, conclut Laurence Colombelle. Précisons que certaines séances sont ouvertes à des personnes en situation de précarité, orientées par la Maison du département des solidarités de Bordeaux-Lac. 06 51 68 50 30 association.amcsb@gmail.com. Centre social de Mérignac-Arlac. Lundi, qigong et relaxation. Jeudi, pilates.
Centre social de Mérignac-Arlac. Lundi, qigong et relaxation. Jeudi, pilates. Vendredi, marche nordique. Espace Trelon à Bruges. Lundi, marche afghane. Mardi et vendredi, pilates. Centre social du Grand Parc. Mardi, marche nordique. Jeudi, pilates et relaxation. 2 séances découvertes gratuites. Santé. Couleur café. Santé solidaire. Qui ?
Le café Santé solidaire est une initiative lancée il y a 4 ans liée à la mission d'accompagnement santé adulte développée par le département de Milan. Cette mission a pour objectif de réduire les inégalités d'accès à la santé et aux soins pour les personnes en situation de vulnérabilité. Le café Santé est portée par Martine Darzac, infirmière à la maison du département de la promotion de la santé, avec les autres professionnels du secteur de la Gironde. Martine s'est livrée à un repérage avec tact et délicatesse dans les locaux des Restos du Cœur à Bordeaux pour proposer aux bénéficiaires des rendez-vous libres et ouverts le temps d'un café afin d'évoquer avec eux toutes questions liées à leur santé et leur vie quotidienne.
Quoi ?
Un café santé, c'est un rendez-vous donné à la permanence des Restos du Cœur de Fort-Louis, où durant 2 heures, l'entrée et la sortie, restant libres, sans rendez-vous, des professionnels de la santé échangent avec celles et ceux qui le désirent autour d'une boisson chaude. Nous avons réussi à créer un lien de confiance, un point d'ancrage, qui passe par un climat chaleureux, la bienveillance et une approche positive, commente Martine. L'initiative a rencontré un vrai succès avec une 20aine de personnes régulièrement réunies.
En plus,
hélas, l'épidémie de coronavirus et le confinement du printemps ont interrompu les rendez-vous. Mais des solutions alternatives ont été trouvées via un groupe WhatsApp et des visioconférences. Les cafés santé solidaire, devenus virtuels, n'ont pas moins du sens. Martine explique. Le courant n'a pas été rompu. Nous avons pu compter sur l'engagement des participants qui n'ont pas voulu que les cafés s'interrompent. Lamine Koné, un jeune Malien, a proposé ses services pour traduire les propos des personnes étrangères et une dame de 70 ans a tout fait pour se servir de son téléphone mobile et nous rejoindre. C'est très gratifiant. Un café, s'il vous plaît, avec deux ou trois mots chaleureux.
Maison du département de la promotion de la santé, 2 rue du Moulin Rouge, 33200 Bordeaux. Téléphone 05 57 22 46 60. Adresse mail dgas-dps-mds@gironde.fr. Adresse internet gironde.fr/santé. Les Restos du Cœur, 14 rue Fort-Louis, 33000 Bordeaux. Téléphone 05 57 95 87 55. Adresse internet ad33.restoducoeur.org, resto étant au pluriel.
Hommage à Emmanuelle Ajon, vice-présidente chargée de la promotion de la santé et de la protection de l'enfance, conseillère départementale du canton de Bordeaux 5. Emmanuelle Ajon a eu à cœur d'offrir à tous les enfants la chance de s'épanouir dans la vie. Le président du conseil départemental, Jean-Luc Glaise.
La disparition d'Emmanuelle Ajon, soudaine et brutale, nous a toutes et tous infligé un immense chagrin. Il est injuste de voir nous quitter si tôt cette femme engagée, passionnée et profondément humaniste. Entrée toute jeune en politique, elle s'était fixée pour objectif de défendre la cause des plus faibles, de se battre pour les droits des femmes et pour faire entendre la voix des enfants, de tous les enfants. Ce n'est pas un hasard si elle fut choisie pour devenir, là encore très jeune, députée suppléante de Michel Delaunay ou plus récemment l'adjointe au logement du maire de Bordeaux, Pierre Urmic. C'est en connaissance de ses grandes qualités humaines qu'élue conseillère départementale de Bordeaux-Bastide, je lui ai proposé de prendre en charge la vice-présidence dédiée à la promotion de la santé et à la protection de l'enfance, sûrement la mission la plus sensible du département dans les deux sens du terme. Emmanuelle Ajon a eu d'emblée à cœur d'offrir à tous les enfants de Gironde les mêmes chances de s'épanouir dans la vie. Ce fut le fil rouge de son engagement, qu'il soit associatif ou politique. Au département, nous lui devons tant. Dès 2015, elle s'est attelée à revaloriser la mission des professionnels de la protection de l'enfance autour de l'accueil de l'enfant. L'année suivante, elle permettait de créer en Gironde le premier village d'enfants à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine pour accueillir des fratries ouvertes cette année. Emmanuelle Ajon est à l'origine en 2016 des premiers états généraux de la protection de l'enfance en Gironde pour lancer une réflexion nationale sur le sujet. Devenue membre du Conseil national de la protection de l'enfance, elle contribue entre 2016 et 2020 à l'ouverture des antennes de la Maison des ados à l'Espar, l'Aréole, sur le bassin d'Arcachon et dans le sud d'Gironde. À l'origine du nouveau schéma départemental de la protection de l'enfance, elle décide en 2017 de créer le Conseil départemental des jeunes de la protection de l'enfance, une première en France, pour donner la parole aux enfants placés sous la responsabilité du département. Sans céder aux menaces et à la haine des extrémistes, au-delà, Emmanuelle Ajon a fait de la Gironde une terre d'accueil des mineurs étrangers non accompagnés. Elle s'est battue pour le droit des femmes, avec en particulier la mise en place dès 2017 des IVG médicamenteuses en centre de planification familiale. Impossible de lister ici tout ce que nous lui devons, mais je citerai encore la nouvelle pouponnière du Centre départemental de l'enfance et de la famille, le CEDEF, inaugurée cette année. Je fais partie de celles et ceux qui ont eu l'honneur et le bonheur de croiser le chemin d'Emmanuelle Ajon, sur la voie d'un courage sans faille et d'un optimisme indéfectible, animé de cette bienveillance à la différence, quelle qu'elle soit. Emmanuelle nous manquera à toutes et tous.
Solutions solidaires 2020, troisième édition, face aux urgences et aux mutations inventées des solidarités nouvelles. 2 et 3 février 2021, forum, fabrique, table ronde, conférence. Pour s'inscrire, solutions-solidaires.fr. Sponsorisé par Le Labo, Terra Nova, Fondation Jean Jaurès, Harmonie Mutuelle, UP, Aviz, Ouzbek et Ricard, Alternatives économiques, TV7, Sud-Ouest et Gironde, le département. Ce document a été enregistré par le GIAA Aquitaine, le groupement des intellectuels aveugles ou amblyopes, 14 rue de l'Aréole, 33 800 Bordeaux. Téléphone 05 56 31 48 48. Adresse mail contact.aquitaine@giaa.org. Notre blog www.giaa-aquitaine.fr.